le magazine de l'environnement sur RFI. Igor Strauss.
Bonjour Abidjan. Merci, merci Abidjan, ça fait plaisir. Et bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Une émission spéciale aujourd'hui. Émission en public enregistrée le 3 avril dernier dans l'amphithéâtre de l'Institut français d'Abidjan. Une émission durant laquelle bien, nous allons enfin connaître le lauréat du 8e Challenge App Afrique, un concours RFI France 24 pour soutenir des startups qui développent des applications numériques innovantes au service d'une problématique africaine. La thématique de cette année, le numérique au service de l'énergie verte, un sujet majeur, on vous en a beaucoup parlé, sur un continent où près de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Et pourtant, eh bien, ce ne sont pas les solutions qui manquent, vous allez le constater, et les énergies vertes comme le solaire, encore très peu développées, eh bien, représentent une belle opportunité. Il y avait plus de 720 participants à ce concours Challenge App Afrique cette année, soit autant d'innovations sorties de votre imagination féconde, mais le jury a sélectionné 3 finalistes, ils sont ici sur ce plateau et vous pouvez les applaudir chaleureusement. Jonathan Zungrana du Burkina Faso, Mounir Jamaï du Maroc et Divin Kwebatuka du Congo. Applaudissements s'il vous plaît. Avec nous également le professeur Fatogoma Soro du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. C'est un partenaire de l'IRD de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Stéphane Madou de la division énergie de l'AFD, l'Agence française de développement. Et puis tout à l'heure, hein, 2 membres du jury nous rejoindront. Philippe Miquel du CFAO Infrastructure qui développe des énergies renouvelables sur le continent et ma collègue Jeanne Richard du service environnement de RFI. Voilà pour le programme. Bienvenue à tous.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Stéphane Madou, bonjour.
Bonjour Igor.
Merci d'être parmi nous. Stéphane Madou, je commence tout de suite avec vous parce que vous êtes un peu le spécialiste de l'énergie. Quelques chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. La population africaine représente à peu près 20% de la population mondiale, mais ne consomme que 3% de l'énergie globale. Malgré un énorme potentiel, l'éolien, le solaire sont très peu représentés. Ça représente 4% de la production d'électricité sur le continent. Il y a encore 75% de l'électricité qui est consommée sur le continent qui vient des énergies fossiles. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ce constat ? Alors que l'Afrique a tout pour développer les énergies vertes.
Oui, évidemment, avec ces chiffres-là, la situation n'est absolument pas reluisante au niveau, en tout cas, de l'amorce de la transition énergétique au niveau de l'Afrique. Et cela s'explique par différents éléments. Un des premiers éléments, c'est d'abord la disponibilité même de la technologie au niveau de l'Afrique. Très clairement, aujourd'hui, nous constatons tous qu'on a des ressources en Afrique en matière d'hydroélectricité, en matière d'éolien, en matière de solaire, mais la technologie n'est pas développée sur place.
L'hydroélectricité, c'est ce qui est le plus présent, c'est 18% des capacités de production en Afrique.
Ça dépend des chiffres, mais oui, c'est plutôt cela. Et donc l'hydroélectricité, c'est une énergie, on va dire, ancienne, développée depuis longtemps sur le continent. Mais en ce qui concerne l'éolien et le solaire, ce ne sont pas des énergies nouvelles, très clairement, mais la technologie n'est pas présente sur place. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est aussi les capacités, on va dire le renforcement des capacités au niveau local. Là aussi, très clairement, il faut former, de sorte à ce que ces énergies puissent être utilisées à bon escient, on dira, de manière efficace. Il faut former. Il y a un des défis évidents qui est celui relatif au financement des projets. Les projets sont pas très matures, les projets sont pas très bancables, et même quand ils sont bancables, il est assez difficile pour les Africains parce qu'il y a une perception du risque qui est assez, on va dire, erronée au niveau des bailleurs de fonds au niveau mondial, hein, très clairement. Et donc, il est difficile, certaines fois, pas toujours, de mobiliser des fonds pour développer ce genre de projet d'envergure au niveau de l'Afrique. On a des exemples, hein, des exemples sont pléthores. On a le barrage de Groenga qui, depuis, je pense même avant que je naisse, a été développé, mais aujourd'hui n'a toujours pas été financé. Mmh. Et donc on a ces sujets-là très clairement. Et puis bien évidemment, on a aussi la situation politique qui ne favorise pas la mise en œuvre des projets. Les instabilités par-ci et par-là, forcément, n'entraînent pas une volonté manifeste des opérateurs, des industriels à s'engager dans ce domaine-là qui est un domaine de temps long, de temps très long.
Professeur Fatogoma Soro, si on veut inverser la tendance dans le cadre de la transition énergétique, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ?
Pour inverser la tendance, il a mis en évidence les défis que nous devrions relever pour le faire. Mais dans l'immédiat, ce qui est possible et faisable, il a parlé, par exemple, du manque de compétences techniques et de technologies. Et nous, au niveau des universités et des centres de recherche, c'est ce qu'on sait faire, on sait faire de la formation. Et d'ailleurs, on s'y engage dès à présent, depuis l'année dernière déjà, au niveau du Centre d'excellence sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable, en abrégé CCBAD. Donc, au niveau de ce centre-là, qui fait partie du groupe Wascal, on a une formation en énergie renouvelable et qui s'étend aussi bien au Niger, au Sénégal, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, chacun de ces pays-là, l'accent est mis sur un type particulier d'énergie renouvelable.
Mais est-ce que les jeunes sont demandeurs ? Est-ce que ces formations accueillent beaucoup de monde ?
Bien entendu. À preuve, lorsqu'on a lancé ce master en énergie renouvelable, on a reçu près de 1000 dossiers. Nous n'avions que 15 places par pays. Donc, on a pu retenir que 60 personnes. Ça vous dit que la demande au niveau de la jeunesse est bien consciente de ce qu'on a besoin de cette énergie. Et elle est bien consciente également aussi des challenges que pose le changement climatique. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'elle s'intéresse à ces énergies renouvelables. Voyez-vous ? Et donc, dans le même contexte, si vous parcourez nos villes et villages, vous allez voir qu'il y a des installations rudimentaires de solaire. Il y a des panneaux solaires un peu partout. Mais ce n'est vraiment pas développé en tant que tel. Ça veut dire que la jeunesse, en tant que telle, elle est bien consciente de l'importance de ces énergies renouvelables, puisque l'électricité conventionnelle n'est pas toujours accessible pour les zones rurales.
Ce n'est pas accessible, et puis il y a des grandes diversités suivant les pays.
Voilà.
Alors, le Maroc, c'est quasiment 100%, la Côte d'Ivoire à peu près 70%, mais quand on passe au Congo, c'est 21%, le Soudan, c'est 8%.
Voilà. Donc, grande diversité. Toujours est-il que même dans ces pays, les zones rurales restent un problème.
Bien sûr. Et c'est pour ça que nos chers finalistes, eux, ils ont des programmes à développer dans les zones rurales, justement. J'ai commencé par vous présenter un premier finaliste, quand même, qu'on leur donne la parole, qu'on les entende. Jonathan Zungrana, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, Jonathan. Vous êtes burkinabé. Votre projet, c'est Kingwa, qui signifie vert en langue morée, si je ne m'abuse. C'est de développer, au fait, la première station de charge électrique à l'énergie solaire au Burkina Faso. Concrètement, Jonathan, comment ça marche ? Comment est né ce projet ? Et quel est le point de départ, le constat de départ au Burkina Faso ?
Le constat de départ est qu'au Burkina Faso, suivant les données que nous avons, nous importons plus en énergie qu'en tout. Et le Burkina Faso importe autour de 12,6% en énergie. Et un pays ne peut pas se développer sans énergie. Et donc, le Burkina, pour tous ceux qui connaissent le Burkina, savent qu'en réalité, le soleil nous connaît. On a le soleil, en fait, à temps plein. Et on a besoin d'exploiter ce soleil-là pour, en réalité, faire la transition énergétique. Et donc, du coup, vu qu'on importe beaucoup plus en énergie, c'est-à-dire pétrole, gaz et électricité, et c'est plus pétrole et gaz, le projet vient en réalité permettre la transition énergétique en passant surtout par les bornes de recharge électrique et en favorisant en fait l'utilisation des engins électriques.
Et parce qu'il faut être très concret, mais c'est vrai que sur le continent, à Ouagadougou d'où vous venez, quand on veut recharger son téléphone portable, son ordinateur, c'est vrai qu'on va dans le petit commerce qui fonctionne avec un groupe électrogène, qui fonctionne avec de l'essence. Vous voulez inverser tout ça et avoir du solaire. C'est plutôt judicieux.
c'est pas jusqu'à partir du soleil, mais le soleil étant en fait un maillon fort, nous démarrons par le soleil. Donc du coup, on peut démarrer par le soleil et c'est pas juste que le soleil qui est exploité. On a aussi en fait on a les groupes électrogènes qu'on utilise, mais il y a aussi des barrages qu'on utilise en fait. Donc du coup, nous commençons déjà par le soleil et en faisant la transition énergétique et d'autres secteurs vont venir certainement.
Mmh. Un petit mot sur cette solution. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Madou?
Comme là, ça a été dit, évidemment, ça permet de résoudre un problème concret. Ça permet aussi d'amorcer, comme vous l'avez signalé, une transition énergétique, on va dire, vertueuse. Ça nous permet d'entrer, d'utiliser donc l'énergie solaire, les barrages pour pouvoir alimenter les téléphones, enfin, pour pouvoir alimenter les populations. Ceci étant dit, j'ai quand même quelques questions sur... la chaîne de production en fait de ces bornes de recharge. Est-ce que ça sera fait made in, on va dire, Burkina Faso? Est-ce que l'entretien se fera sur place, le recyclage? Il y aura des batteries, je suppose.
L'entretien et la maintenance, c'est un sujet qui revient régulièrement quand on parle de ces projets-là. Je vous laisse répondre, Jonathan Zougrana.
Oui, absolument. Tout est fait sur place par nos équipes. Donc, du coup, la production, l'assemblage et la maintenance, tout est fait sur place par nos équipes.
Et après, pour le suivi, là, maintenant, ça va être compliqué. On a parlé de nombreux projets depuis, où quand il manque une petite pièce, rien ne se passe. Tout ça, vous l'avez anticipé, justement?
Oui, c'est anticipé.
C'est un des défauts que vous avez soulevé vous-même de votre projet. Donc, expliquez-nous ces solutions pérennes pour ne pas, justement, qu'une fois qu'une petite pièce est cassée, ça tombe à l'eau, finalement.
Non, tout simplement, dans la conception, dans la modélisation du projet, on tient en compte, en fait, tout le matériel nécessaire pour le projet. Et donc, on fait le sourcing du matériel. Le matériel qu'il y a sur place, on les exploite. Le matériel qu'il n'y a pas sur place, on va forcément importer. Parce que de toute façon, même si on fait la production en local, on ne peut pas tout produire à partir du néant sur place. Donc, tout est calculé pour qu'en réalité, quelle que soit la pièce qui puisse manquer dans la conception du projet, qu'on puisse l'avoir. Parce que aussi, même en achetant un matériel ou un produit, on peut connaître les cycles de vie de chaque matériel en fonction de l'utilisation récurrente du matériel. Et donc, avec une bonne planification, une bonne organisation, et en fonction du rythme d'utilisation du matériel, on peut ne pas être au coût de produits, de matériel pour la maintenance, pour la gestion, pour la production. Mmh. Pour nous, tout est question de planification, de sourcing et de recherche de coûts abordables.
À terme, on sait qu'au Burkina Faso, il y a un grand projet de développer les voitures électriques. Et vous voulez vous placer sur ce secteur, justement, des bornes, des recharges. Ce n'est pas un peu ambitieux comme projet? Le Burkina est prêt pour des voitures électriques?
Le Burkina est prêt. Ce n'est pas qu'être ambitieux, parce que déjà, hormis les voitures électriques, il y a les vélomoteurs, les vélomoteurs qui sont déjà là présents au Burkina. La plupart des parents d'élèves en fait achètent des vélomoteurs pour les enfants, pour les lycées. Ça, c'est déjà très, très présent au Burkina. Mais en plus, vu qu'il y a une volonté politique de mettre en place une usine d'assemblage de voitures électriques, et que ce n'est pas qu'une volonté politique, il y a aussi un arrêté qui est mis en place pour la mise en place des bornes de recharge électrique au Burkina Faso, et aussi un décret qui a été signé pour, en réalité, et des dates précises pour la mise en place de l'usine d'assemblage des voitures électriques, et que même, en plus de cela, c'est notifié que tous les ministres doivent circuler avec ces voitures électriques. Il y a toute une économie qui est en train de se créer. Donc, nous, on se dit de toute façon, si ces engins de consommation sont là et qu'on n'a pas et l'énergie nécessaire ou les bornes nécessaires pour pouvoir faire la recharge, il y a un problème. On envoie la fourniture d'énergie et on attend, en fait, les éléments de consommation. Mais déjà, on a un pré-marché avec les vélomoteurs qui sont déjà là et aussi avec certaines voitures électriques comme Shangan qui est déjà sur place au Burkina Faso. Donc, c'est pas être ambitieux, c'est quelque chose qui
non,
est...
Non, mais c'est bien l'ambition, hein, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. Mais un peu tôt, peut-être. Oui, professeur, très rapidement, parce qu'on va marquer une petite pause en musique. Mais je vous écoute, allez-y.
Pour ce projet-là, bon, je vois que déjà, il y a, au niveau de la réglementation, il y a déjà une volonté politique de mettre en place le solaire comme étant une des sources d'énergie au Burkina Faso. Par contre, dans ce projet-là, en tant que tel, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'accessibilité en termes économiques. Est-ce que le coût des recharges sera accessible? Et puis, est-ce qu'au niveau de la connectivité et de la fiabilité de ces bornes-là, on a parlé de la maintenance tantôt, puisque certaines pièces pourront être importées. Et puis, il y a le problème également aussi de la formation du personnel en tant que tel. Est-ce que derrière, il y a tout un processus qui est mis en place pour former les techniciens qui vont s'occuper de ces bornes-là et tout ? Parce que c'est toute une économie aussi qui pourrait être développée de cette façon.
Et bien justement, Jonathan Zungrana vous répond tout de suite. Qu'est-ce que vous répondez au professeur, Jonathan ?
On a déjà étudié le coût et on sait que normalement, en fait, avec le coût de l'énergie que la Société nationale d'électricité donne, nous pouvons en fait nous allier sur ces prix. Maintenant, au niveau de la formation de nos équipes, forcément, on a mis en place en fait des stratégies pour former les techniciens et forcément, il faut que nous, on forme nos techniciens, pas seulement pour le déploiement, mais parce que le projet, il est évolutif. On est à une première phase, il y aura forcément une deuxième phase suivant l'adaptation du besoin du marché. Et donc, du coup, avec la recherche et développement qui se fera, forcément, nos techniciens devront continuer à faire en fait, une mise à jour en, fait, en termes de formation. Tout ce plan est mis en place.
Allez, on marque une première pause en musique. Voici C'est comment de Kif No Beat sur RFI. Shadow Chris Beach.
T'as tout dans les campagnes, non? T'as pas les assinis, non? J'ai tout de faire coco. J'ai dans quel giga? T'as tout dans les champagnes, non? T'as pas les assinis, non?
Depuis tu me mets dans le flot.
écoutez C'est pas du vent sur RFI, émission spéciale en public enregistrée à l'Institut français d'Abidjan le 3 avril dernier pour la finale du Challenge App Afrique, un concours RFI France 24 pour soutenir des startups qui développent des applications numériques innovantes. Ils étaient plus de 720 participants, ils ne sont plus que 3 finalistes. Nous connaîtrons le lauréat dans une quinzaine de minutes. Le temps de vous présenter bien un deuxième finaliste, Mounir Jamaï, bonjour.
Bonjour.
Vous avez développé Ener Counter, c'est un réseau électrique intelligent pour optimiser la production, le stockage et la consommation d'énergie. Objectif, eh bien, rendre l'énergie accessible en milieu rural africain. Même question, comment vous avez développé ce concept, comment il est né. Alors c'est parfois un peu technique, donc je vous demande de vulgariser s'il vous plaît.
Très bien. Donc, Ener Counter, c'est un compteur qui est développé par ma société NRCI, qui est basée en France et au Maroc. Donc, historiquement, on travaille sur des projets de mobilité électrique. Et on avait une volonté de pouvoir maximiser notre impact et faire des projets qui ont du sens et surtout s'attaquer au marché africain. Donc, pour ça, on a monté un pôle recherche et développement au Maroc, avec lequel on a développé plusieurs solutions technologiques, donc une solution de gestion de l'irrigation et une solution de gestion de l'énergie, le Ener Counter. Donc le Ener Counter, c'est une partie compteur, donc matériel. Donc c'est un compteur que nous avons développé qui permet de compter l'énergie, un peu comme vous avez tous à la maison, l'appareil qui va permettre de compter, savoir combien vous devez payer à la fin du mois. Et on a aussi une intelligence artificielle qu'on a développée et qui permet d'apporter ce qu'on appelle des services énergétiques. Et parmi ces services énergétiques, donc c'est, on va avoir donc le fait de pouvoir visualiser ces consommations en temps réel, d'une part, mais aussi d'apporter donc des faire en sorte qu'on ait comme si vous aviez un ingénieur énergéticien embarqué dans votre installation électrique, notamment pour équiper les industriels et les bâtiments tertiaires. Et c'est comme ça qu'est né justement ce projet-là. Donc avec la vocation de faire des économies d'énergie. Comme on dit, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Donc ce Ener Counter permet justement d'alerter sur les consommations anormales et donner des préconisations pour réduire ces consommations d'énergie. En deuxième phase, on a voulu attaquer un marché qui est énorme, c'est le marché de l'électrification rurale. C'est un marché de 350 milliards de dollars.
Qui n'intéresse personne selon vous. Hein.
Exactement.
D'ailleurs, vous interrogez.
Exactement, d'ici 350 milliards de dollars d'ici 2030, comme je disais, qui n'intéresse personne. Et on s'est posé les questions, pourquoi justement ce marché n'intéresse personne? Parce qu'il a été évoqué tout à l'heure, la notion de risque. C'est des projets qui sont risqués parce que derrière, on a des personnes qui sont parmi les moins bankable au monde, si on parle avec un langage financier, on va dire, et qui sont l'agriculteur africain, le villageois africain. Et ça, d'un point de vue des institutions, des bailleurs, c'est pas intéressant, c'est pas attractif. Donc on s'est dit, on a essayé de trouver des solutions pour pouvoir donc adapter nos solutions pour rendre attractif ce marché-là, et ça passait par rendre intelligent le réseau. Donc pouvoir savoir ce qui sort de la centrale photovoltaïque, d'une part, et savoir ce que tout à chacun consomme.
Alors déjà, pour en revenir à l'agriculture, c'est créer un mini-réseau, si j'ai bien compris, qui marche à l'énergie solaire, qui permettra ensuite d'irriguer les plantes la nuit, c'est ça?
Pas que. En fait, la cible principale, c'est dans les villages. Donc vraiment au milieu...
Dans agriculture dans rurale.
Vraiment en milieu rural. Donc le village en milieu rural, équiper chaque ménage de Ener Counter, donc qui sera donc leur compteur un peu comme vous avez tous à la maison, et puis équiper aussi la centrale photovoltaïque d'un autre compteur. Et à partir de là, on fait connecter l'ensemble de ces compteurs-là, et avec notre IA, on gère on sait analyser les flux. Et par exemple, et on vient interconnecter par exemple notre Ener Counter avec le système d'irrigation qu'il y a dans le périmètre maraîcher en général, qui est en périphérie du village. C'est comme ça que se constituent la plupart des villages en Afrique subsaharienne. Et donc là, ce périmètre maraîcher est équipé d'une autre technologie qu'on a développée, qui est le Daki Farm, d'ailleurs qui était parmi les 10 finalistes du Challenge App l'an dernier. Et c'est un système qui vient irriguer les cultures en fonction des besoins des plantes, connecté à une API météo, donc à la météorologie, et savoir quand
est-ce qu'on... On ne gâche pas la ressource rare.
Permet d'économiser l'eau et d'irriguer les cultures quand on en a besoin. Et après, là où il y a l'interaction entre ces deux systèmes, c'est par exemple un cas typique, c'est entre midi et deux, c'est là où on a le plus d'ensoleillement, donc le plus de production solaire, et c'est aussi là où il y a le moins d'activité. Donc une fois que vous avez les batteries du mini-réseau qui sont chargées, Donc là, donc vous avez l'énergie qui est disponible et qui n'est pas utilisable.
Mais là, ça pose quand même un des énormes enjeux de l'énergie solaire, qui est le stockage de cette énergie, justement. On l'a produit pendant qu'il fait jour, on en a besoin quand il fait nuit. Comment on la stocke concrètement? Parce que ça, avec tous les spécialistes mettent ce problème de stockage de l'énergie en avant.
Aujourd'hui, on la stocke avec des batteries. Donc on a les anciennes générations de batteries qui durent entre 5 et 6 ans, on va dire, en général. Maintenant, il y a des générations de batteries lithium, un peu comme on a dans les véhicules électriques, qui durent plus longtemps. Mais c'est des équipements qui coûtent cher et on ne peut pas les mettre, de manière illimitée. Donc on va limiter la capacité de stockage batterie et après, grâce au NR-compteur, on va trouver d'autres moyens de stocker l'énergie. Par exemple, dans le cas de figure dont je parlais tout à l'heure, où il y a de l'énergie qui est disponible et pas de consommateur et que les batteries sont déjà pleines, on va venir pomper de l'eau, donc utiliser cette énergie qui est disponible en pompant de l'eau, en stockant cette eau dans les châteaux d'eau ou dans les bassins pour l'irrigation, et l'utiliser quand on en a besoin pour l'irrigation. Donc c'est une des méthodes pour pouvoir stocker de l'énergie entre guillemets sous forme d'eau. Et c'est ce que permet l'NR-compteur et l'interconnexion qu'on a avec le système d'irrigation.
Alors, je fais vite réagir nos invités, puis on revient à vous, évidemment, Mounir Jamaï. Professeur Fatogoma Soro, vous êtes un peu spécialiste de toutes les questions agricoles. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution d'irrigation, de système intelligent d'irrigation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait développer dans d'autres pays? Est-ce que c'est une partie de la solution, finalement?
Alors, merci Igor. En fait, ça c'est vraiment c'est ce genre de choses-là que nous, on promeut dans les formations qu'on fait, parce qu'au niveau de l'agriculture intelligente, couplée avec l'information, les services d'information climatique. Parce qu'une une application comme celle-là, elle répond vraiment aux besoins de ce que nous on appelle faire de l'agriculture intelligente. C'est-à-dire qu'on va utiliser les moyens technologiques pour pouvoir aider à avoir une meilleure production. Avec un système comme il le présente, c'est-à-dire que on va optimiser l'irrigation. Si on met en place un système d'irrigation, bien entendu, en aval qui est couplé à l'information climatique, parce que si j'ai bien compris, il pourra, avec l'information climatique, c'est-à-dire les températures, l'humidité et tout ça, en fonction de tout ça, ça va être fait avec les besoins de la plante, la quantité d'eau dont la plante a besoin, c'est ce qui sera libéré. Et donc, on ne peut que saluer cela. Cependant, il y a quand même quelques éléments, à mon sens, qui peuvent être...
Quelques interrogations, selon vous.
Voilà. Parce que, par exemple, on peut être amené avec un tel système à avoir une dépendance à la technologie. Et cette dépendance à la technologie peut faire en sorte que, par exemple, quand il y aura une panne, comment est-ce qu'on résout la question?
Parce que si... ce qu'on se posait comme question tout à l'heure, sur le suivi, la maintenance. Mounir Jamaï, il vous répond.
C'est une très, très bonne question. Donc, c'est des sujets sur lesquels on a planché beaucoup. Et en fait, si vous voulez, l'utilisation de nos deux technologies, donc de gestion de l'eau, gestion de l'énergie, elles s'inscrivent dans le cadre d'un programme global qu'on a monté, qui s'appelle ASIWA, Autonomy with Solar Energy and Water in Africa. Ce programme, il vise à alimenter donc des villages en énergie solaire à travers des mini-réseaux et accompagner les bénéficiaires dans le paiement de la facture à travers du renforcement de capacité qui passe notamment par le renforcement de capacité agricole à travers les services d'irrigation. Et il y a aussi un élément qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, le modèle classique qu'on trouve chez les opérateurs, on a l'équipe principale qui va être à Abidjan, par exemple, ou qui va être à Bamako, et qui va devoir faire des allers-retours à chaque fois pour aller, des fois, juste réarmer un onduleur, faire appuyer sur un bouton. Et pendant ce temps-là, donc le temps de trajet, c'est de l'argent, donc c'est du carburant, c'est du temps sur lequel on ne vend pas de l'énergie, parce que c'est du temps où la centrale n'est pas disponible. Donc nous, on a fait le pari d'avoir une organisation interne où faire en sorte que chaque grappe de 10 villages, on a une équipe de 4 personnes. Deux techniciens qui sont vraiment sur un périmètre très restreint, une personne qui s'occupe, un coordinateur de projet qui va s'occuper de créer de l'effervescence, notamment la création de coopératives, le fait qu'il y ait de l'énergie productive, que ce soit de l'énergie qui ne soit pas une charge insoutenable pour les ménages, mais que ce soit un outil d'émancipation et d'autonomisation. Et après, il y a une dernière ressource qui est en temps partiel, qui permet de faire les recharges du pay-as-you-go, ce qu'on appelle donc, un peu comme on va recharger un prépayé de téléphone portable, on va recharger un crédit de consommation. Et après, pour revenir sur la techno, au niveau de l'interaction, il y a aussi un autre exemple d'interaction, par exemple, avec la connectivité par rapport à la météorologie. Quand vous avez une période qui est très très sensible pour l'agriculteur, c'est la période de floraison. Dès lors que vous avez des périodes très très chaudes à venir, donc le lendemain matin qui va faire très chaud par exemple, donc le système va venir communiquer avec le NR-compteur, faire en sorte que la nuit, la veille, on vient réduire l'éclairage public du village pour préserver l'énergie de la batterie et alimenter l'irrigation pendant la nuit pour justement renforcer la capacité des cultures très tôt le matin ou durant la nuit et les aider à surmonter justement les fortes chaleurs à venir et garantir les rendements.
On va avancer un petit peu plus. Non, je vous coupe, excusez-moi. Je vais donner la parole à Stéphane Madou parce que ça passe très vite. On a plein de questions à poser à nos candidats, mais il y en a un qu'on n'a toujours pas entendu. Il faut qu'on avance. Stéphane Madou, juste très brièvement, est-ce que ces petites unités d'énergie, finalement, que proposent Mounir Djabaï et d'autres, hein, est-ce que finalement c'est ça l'avenir ?
En tout cas, l'avenir, ça fait partie de la solution. Très ouais. Clairement, ça fait partie de la solution. Et justement, c'est un ensemble, c'est un continuum de solutions comme ça qu'il faut financer pour... améliorer l'accès à l'électricité en milieu rural notamment. Par contre, moi, j'avais deux questions par rapport à ce projet. C'est d'abord, évidemment, le coût du kilowattheure. Très clairement, c'est forcément... Enfin, c'est le nerf de la guerre. Hein. Est-ce que par rapport aux opérateurs nationaux...
Posez vite les deux questions, vous y répondez vite et puis on passe ensuite.
Exact. Et la deuxième question, c'est par rapport à la technologie pour transmettre l'information. Ce que je comprends, c'est qu'il y a des capteurs qui sont placés, qui permettent d'acquérir et de donner des ordres. Question, est-ce que c'est des systèmes de fibre optique, c'est des systèmes hertziens ou c'est quoi qui...
Très bien. Donc pour la première question, donc nous, on va vraiment se caler sur le cadre réglementaire des pays. Donc nous, on travaille avec le Burkina Faso, le Mali, le Togo, et on espère aussi avec la Côte d'Ivoire. Et le gros sujet, c'est justement à proposer un prix du kilowattheure compatible avec la réglementation, les décrets qui sont sortis dans chaque pays. Après, donc, nous, il y a une des choses qu'on va implémenter, c'est cofinancer le projet à travers la compensation carbone qui va nous permettre de réduire le prix du kilowattheure. Et là, notamment, dans un terme que j'aime pas, mais les PMA, les pays les moins avancés, qui sont éligibles justement à ce financement lié à la compensation carbone. Après, pour la deuxième question, nous, on utilise des systèmes radio pour pouvoir faire communiquer les systèmes entre eux, à savoir qu'on va utiliser très peu de capteurs au niveau des exploitations agricoles, parce qu'on n'aime pas les capteurs en milieu rural africain. Ça demande de l'entretien, il y a l'errance du bétail, il y a beaucoup de problématiques. Un capteur qui est défectueux du fait d'un aléa, c'est un risque pour les cultures. Donc nous, on va utiliser d'autres technologies pour justement pouvoir analyser la santé des plantes.
Merci pour ces précisions. Je vais tout de suite vous présenter le troisième finaliste qui nous vient du Congo-Brazzaville. Divin Kwabatuka, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous avez développé, vous, la Greenbox, une application de gestion agricole. Greenbox, finalement, c'est une chaîne de froid verte pour aider à réduire les pertes après récolte. Pareil, est-ce que vous pouvez nous détailler ce projet, nous dire l'idée, le point de départ et tout simplement, peut-être, qu'est-ce que représentent ces pertes agricoles au Congo ?
Merci beaucoup. On est parti d'un problème présent au Congo et qui est même en Afrique, les pertes post-récolte. Si vous venez à Brazzaville et à Pointe-Noire, vous allez constater que dans les marchés, il y a des déchets qui se déversent. Et même au niveau des villages, des mamans, après la récolte, sont pressées à vendre des produits alors qu'elles vendent ça à un prix relativement bas parce qu'elles ne savent pas là où conserver leurs produits.
Selon vous, dans votre pays, vous avez dit que c'était 40% de pertes parfois. Exactement. Dans certains domaines.
Au Congo, on est à 48%, et en Afrique subsaharienne, on est à 40% des pertes post-récolte. Et au niveau mondial, nous avons plus de 1,5 tonnes métriques de déchets chaque année.
Et ces déchets qui produisent du méthane, qui favorisent le réchauffement climatique. Exactement. Donc vous, c'est comme ça qu'est née la Greenbox. Mais ensuite, concrètement, comment est-ce qu'on met tout ça en place ?
Exactement. Ces déchets représentent 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et partout de ce constat, nous avons créé Greenbox, qui est une chambre froide alimentée par l'énergie solaire qui permet de conserver les denrées alimentaires, qui sont des fruits, des légumes, et que les vaccins et certains médicaments qui ont besoin de maintenir une certaine température. Et nos Greenbox, c'est le genre de chambre froide que nous mettons à la ferme, dans les zones rurales reculées, qui n'ont pas accès à l'énergie. Et ça permet aux agriculteurs de conserver leurs produits. Et dans cette même dimension, nous avons aussi installé les chambres froides au niveau des marchés. Ça permet que les mamans, auparavant, qui vendaient à la va-vite leurs produits, peuvent avoir un espace pour stocker leurs produits.
C'est-à-dire que la maman peut attendre que les cours remontent un petit peu pour pouvoir vendre à meilleur prix. Oui. Et inversement, quand une maman vend au bord du champ, le vendeur, celui qui est, lui, pourra conserver cette marchandise et réduira les pertes, c'est bien ça ?
Exactement. Et prenons ce constat, nous allons développer une infrastructure qui permet non seulement de stocker les produits, mais informer aussi les mamans et les détaillants des produits qu'ils ont stockés. Quel moment est idéal pour vendre leurs produits ? Quel marché est favorable ? Et à quel prix il faut vendre ? et nous récoltons des informations à travers nos chambres froides, et ce qui permet tout simplement de changer radicalement la vie de ces mamans-là qui auparavant perdaient pratiquement 40% de leur production et vendaient à des prix relativement bas leurs produits.
Professeur Fatogoma Soro, ça c'est une initiative qui doit vous plaire, hein, vous qui êtes dans le domaine agricole. On parlait de la situation au Congo-Brazzaville avec 48% de pertes. Ici en Côte d'Ivoire, où est-ce qu'on en est? Quelle est la situation? Et est-ce que Greenbox pourrait faire le bonheur des agriculteurs ici en Côte d'Ivoire, selon vous?
Bien sûr, Igor, bien sûr. Parce que, voyez-vous, les pertes post-récolte, on les déplore et... au niveau des quand vous passez dans l'arrière-cour des supermarchés, ou alors même si quand vous êtes au champ, après que l'acheteur soit passé, et vous voyez les restes qui sont là, ça fait mal au cœur. Quand vous savez que quelque part dans le monde, il y a des gens qui ne trouvent pas à manger 3 fois par jour, ne serait-ce qu'une fois par jour. Alors, donc, une solution comme celle-là, elle est vraiment le bienvenu pour les agriculteurs. Elle est le bienvenu pour les agriculteurs seulement et surtout...
Et pas que, hein, même pour les transporteurs et les vendeurs.
Toute la chaîne des valeurs. Seulement, elle l'est un peu moins pour les agriculteurs que pour le reste de la chaîne. C'est bon pour les transporteurs, c'est bon pour
les revendeurs. Parce que selon vous, un agriculteur vend au bord champ, il vend tout de suite.
Voilà, il vend tout de suite. Bon, donc, il n'a pas vraiment le temps de conserver. Et même s'il conserve, ça ne peut pas excéder un certain temps. Donc, il est bien obligé de vendre. Par contre, ceux qui vont en profiter, ce seront nos mamans qui vont chercher les produits au champ pour les ramener dans les villes, pour les ramener dans les villages. Ça, ce sera quelque chose qui sera bien pour elles. Parce que à partir de ce moment-là, plutôt que d'avoir des camions... qui sont ouverts avec la green box, si on la met à échelle, ça peut toujours servir. Seulement, moi, parce qu'il a beaucoup insisté sur le fait que, au niveau commercial, ça peut être quelque chose d'intéressant, on va conserver, et puis quand les prix vont monter, on va vendre, et ainsi de suite. Mais là, on se trouve, on est en Afrique, hein. Voilà, faut que dans le contexte dans lequel on est, la fiabilité des données... Quelle sera la fiabilité des données pour alimenter ce système-là? Et à côté de cela aussi, il faut voir que il peut y avoir la disponibilité même de ces données. Ce n'est pas toujours, les données ne sont pas toujours disponibles. Et puis derrière, il faut mettre en place une architecture assez robuste pour pouvoir gérer un peu tous ces éléments-là. Je ne sais pas si cette question a été prise en compte par le concepteur de la Green Box, qui est vraiment un élément très, très intéressant pour l'agriculture intelligente que nous promouvons en Afrique comme solution.
Vous voulez dire un petit mot, Divin?
Oui, exactement. Cette question a été prise en compte parce qu'il ne s'agit pas juste de stocker les produits, mais nous utilisons du deep learning, qui est une science qui permet vraiment de base de données, qui permet, ça faisait 2 ans que nous récoltons des données par rapport aux différents produits qui sont vendus, qui sont souvent vendus, les tomates, les poivrons. Et nous avons à quel moment, quel agriculteur qui est au village, on utilise juste les SMS, de l'informer que le produit que vous avez stocké chez nous est le bon moment pour le vendre à un prix relativement élevé. Quel marché et surtout à quel prix? Parce que dans nos marchés, les gens vendent des produits à un prix relativement bon et à un prix qui les semble. Alors que si nous avons des informations que nous donnons aux vendeurs, ça les permet tout simplement de conserver, de réduire les pertes post-récolte et de vendre les produits à relativement bon. Et c'est ce qui nous a permis d'augmenter les revenus des petits exploitants agricoles, des détaillants, à pratiquement 150% la dernière campagne agricole.
Allez, on marque une deuxième pause en musique. Voici Mister Romantique de MC One et Oxlade sur RFI.
Avec toi que je me fais ma story. De toi je suis love, love. Et de toi et moi dans la cova, cova. Et mes valises on va s'en aller où? Mister Romantic.
C'est pas du vent sur RFI, émission spéciale en public pour remettre le 8e prix Challenger Afrique. Et voici, chers spectateurs, le moment tant attendu. Vous pouvez applaudir, hein, ça y est, on va connaître enfin le lauréat. À mes côtés, Vincent Fleury, donc directeur des environnements numériques de France Média Monde. Cher Vincent, je vous laisse annoncer le lauréat.
Merci Igor. J'ai la joie et l'honneur de remettre le prix Challenge Up Afrique de la 8e édition à Divin Kouébatouka. Félicitations.
C'est donc la Green Box. Bravo, bravo à tous. Bravo Mounir, bravo Jonathan. Avec moi également deux membres du jury. Alors tout d'abord, Jeanne Richard, tiens, journaliste environnemental à RFI. Nos auditeurs vous connaissent très bien. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ?
Alors moi, ce que j'ai apprécié dans votre projet Divin, c'est l'aspect communautaire que je trouve particulièrement adapté au contexte africain. C'est-à-dire dans les villages, on vit ensemble. Et donc, le partage et l'aspect aussi environnemental. Moi, je suis journaliste environnement, c'est-à-dire que là, on a des dépenses inutiles évitées. On a des émissions de gaz à effet de serre évitées. On a des pertes évitées. Et voilà, l'efficacité énergétique, l'efficacité des produits, c'est-à-dire on ne va pas perdre des produits, ça c'est très important au niveau environnement. Il y a un rapport récent qui vient de sortir qui dit que 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial sont dues aux pertes des aliments, au gaspillage des aliments dans le monde. C'est primordial et donc voilà, pour moi c'est une solution concrète, adaptée au contexte africain et qui est bonne pour le climat, donc bravo.
On peut l'applaudir, merci à vous Jeanne. Philippe Miquel, vous êtes de CFAO Infrastructure, vous étiez également membre du jury. Vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet Greenbox ?
Merci Igor, bonjour à tous. Écoutez, nous, ça a été un vrai coup de cœur pour Divin. Effectivement, il y a cet
divin coup de cœur.
Un divin coup de cœur. Je me permettrai de vous faire remarquer que Divin fait du froid avec le soleil. Ça a été un vrai coup de cœur parce qu'il y a cet aspect effectivement communautaire. Il y a le fait qu'on adresse un sujet, comme l'a dit Jeanne, qui est celui du gaspillage alimentaire, qui est une préoccupation d'un certain nombre d'agriculteurs en Afrique. Divin l'a vécu lui-même. Ses parents sont agriculteurs et la solution, il l'a cherchée avant tout pour répondre à un besoin qui était celui de ses propres parents, de sa propre famille. C'était aussi un des projets qui était le plus près, parce que je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 Green Box qui sont déjà en opération. Il y en a 28 en projet, et on pensait que c'était le projet qui permettrait, pour lequel le prix lui permettrait d'être le plus, avoir le plus d'impact tout de suite avec sa solution. Et puis c'est une solution qui s'applique à la RDC, d'où vient Divin, mais ça s'applique à un certain nombre de
pays. C'est duplicable dans tous les pays, finalement.
D'Afrique. Et puis c'est une solution décentralisée de production de froid. Et dans la transition énergétique, il y a un élément essentiel qui est la décentralisation de l'énergie, le fait que ce sont les consommateurs qui produisent eux-mêmes leurs propres besoins énergétiques. Et c'est un très bon exemple de tout ça. Merci pour ce projet magnifique.
Bravo, Divin Kwe Batuka. Bon, on va vous entendre un petit mot. Votre réaction, on est ravis pour vous.
Merci beaucoup, je suis ému parce que c'est ce qu'il a dit, c'était un problème personnel. Et après mes études supérieures, et j'ai pris ici, je suis ingénieur en énergie renouvelable, et c'est ce qu'on a fait, ça, une mission personnelle avec mon équipe, d'essayer de se battre avec ce problème-là qui gangrène au Congo et pratiquement dans tous les pays africains.
Ça va vous permettre de vous lancer, le fait d'être lauréat du 8e Challenge App, ça va vous donner un sérieux coup de pouce?
Exactement. Premièrement, on aura de la visibilité nationale, la considération toujours au niveau du Congo et au niveau international. Et ça nous permet que les gens nous prennent plus au sérieux qu'avant. Voilà.
Bon, bah écoutez, c'est une très bonne chose. Messieurs, dames, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aussi applaudir Jonathan et Monir pour qui ne sont pas les Leroy, mais qui n'ont pas démérité, qui ont aussi des superbes programmes. Merci de les féliciter chaleureusement. Un petit mot de la fin, professeur Fatou Gomaz Soro, cette Green Box, qu'est-ce que vous en pensez?
En tout cas, de la Green Box, je ne peux que penser du bien. Je ne peux que penser du bien parce qu'elle résout un véritable problème, un véritable défi que l'agriculture, la post-récolte rencontre. Et ce problème n'est pas toujours pris à bras le corps. On se contente de constater les dégâts. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. C'est pourquoi je suis ravi qu'il y ait des jeunes Africains qui aient pensé à mettre en place des solutions pour résoudre cela.
Merci, professeur. Jeanne, vous voulez rajouter un petit mot?
Oui, je voudrais aussi ajouter, on sort d'une pandémie qui a été terrible et on s'est tous rendu compte qu'à un moment donné, on avait quand même besoin d'une chaîne du froid qui tenait la route. C'est pas que pour l'alimentation, pour l'agriculture, c'est aussi pour la préservation des médicaments,
des vaccins. Exactement.
Voilà. Et donc, ça aussi, c'est très important, enfin, franchement, d'avoir un frigo quand il fait 45 degrés dehors. Bon, on en a besoin, quoi.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci beaucoup, cher public, d'être venu assister à cette émission en public. Vous l'avez compris, donc c'est la fin. Merci évidemment à l'Institut français d'Abidjan de nous avoir accueillis. Merci à vous, cher public. À la technique aujourd'hui, il y avait Benjamin Vaillou, Romain Ferré, Ebi Syriac, Ibrahim Ouedraogo et Alain Niangra. À la réalisation, c'était François Porcheron. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Prenez soin de vous et des autres. On se retrouve demain à suivre un nouveau journal sur la Radio du Monde.